Jules Janin, La dame à l'œil rouge. Il y avait déjà 6 mois que M. de Frémiet, second avocat général, était assis sur le banc des enquêtes, parmi messieurs les gens du roi, attendant quelque belle occasion de montrer qu'il était éloquent, juste et courageux. Lorsqu'un matin, on va lui dire qu'une jeune fille, une inconnue, sollicitait son audience. Le secrétaire du jeune magistrat lui dit que la dame était fort belle et qu'elle voulait expliquer elle-même sa cause à l'avocat général. « Vous dites qu'elle est belle ?»« Belle comme le jour, un miracle de grâce et de distinction. Je ne veux pas la voir. »« Des yeux bleus, couleur du temps. Fermez la porte. »« Et un sourire divin. » Mais dites-lui qu'une audience est impossible. Il n'est pas bon que le juge et la plaideuse, surtout lorsqu'elle est jeune, soient en présence. Il suffira d'avoir sous les yeux les pièces du procès, que j'étudierai avec la plus grande sollicitude. Vous voyez que le jeune homme était à l'école austère de Daguesso. Dieu soit loué, mais ces belles ardeurs ne durent guère. Le magistrat s'humanise, et si la plaideuse est belle, en effet, les portes les plus difficiles, souvent, s'ouvrent à son commandement. Eh bien non, la dame revint, peu de jours après, avec sa suivante, qui portait péniblement dans un sac de procureur les pièces d'un gros procès, qui durait depuis plus de 30 années, avait été commencée quelque 10 ans avant sa naissance. Elle avait écrit d'une main très nette, dans une langue irréprochable, l'excellence de sa cause, et comment, de la perte ou du gain de son procès, dépendait toute sa fortune. Elle était orpheline et n'avait pour dot que ce domaine en litige, au beau milieu de la Normandie, où les terres sont si belles et les procès si longs. À cette seconde démarche, la jeune déshéritée ne fut pas plus heureuse qu'à la première. Le secrétaire eut beau la représenter plus belle encore, l'avocat général fut stoïque dans son devoir. Pressentait-il qu'il perdrait, en la voyant toute la force et toute la vertu de sa conscience? La dame se résigna. Elle prit dans son sein un billet où elle exprimait son regret de ne pouvoir être entendue, car elle avait prévu que la porte ne s'ouvrirait pas. Elle donna le billet avec les pièces du procès, après quoi elle s'en alla pour ne plus revenir. C'était un vendredi, un 13, un jour d'hiver. M. de Frémiet décacheta la lettre. Une suave odeur de jeunesse et de résignation s'en échappait, ce qui donna fort à réfléchir à M. de Frémiet. Et comme il ne voulait pas commencer cette grande entreprise un vendredi et le 13e jour du mois, il attendit un moment favorable. Le lendemain, il ouvrit le sac où toutes les pièces étaient contenues. C'était un vrai monceau de documents qui aurait fait reculer le praticien le plus intrépide. « Oh, mon Dieu !» se disait le jeune magistrat. « Comment faire me reconnaître dans ces abîmes ?» Cependant, il ne perdit pas courage, et quand il eut mis tout en bel ordre, assignation, citation, jugement, sentence, témoignage, opposition, appel, confrontation des parties, et tout le détail de cette procédure à l'infini, un certain jour apparut dans ses parchemins, dont l'encre avait déjà perdu sa couleur primitive. Oh, les malheureux plaideurs! Sitôt qu'ils sont tombés dans ces embûches signalées par tous les grands magistrats de la France. Aussi, ainsi songeait M. de Frémiet. Mais c'était un esprit tenace, une volonté singulière. Ajoutez qu'il était tout rempli de la passion des lois romaines, et qu'il savait par cœur la coutume de Normandie. Étant lui-même un peu normand par madame sa mère, qui était la petite fille d'un président au parlement de Rouen, où le jeune Corneille avait fait ses premières armes, quand il était amoureux de la belle Mélite. Dans ces grandes et sévères difficultés de la justice, le premier point est de s'y plaire, et le premier bonheur est de comprendre. Il ne fallut pas plus de 6 mois au jeune magistrat pour deviner le point de droit, et plus il se sentait avancé dans l'inconnu, plus il s'attachait à la tâche acceptée. Il est vrai qu'il trouvait assez souvent sur sa table de travail le nom de la jeune plaideuse, Adèle de Ville de Latardieu. Elle était impatiente, évidemment, d'arriver au maître jour où tout de nuant justice lui serait rendue. Et c'est pourquoi elle ajoutait à son nom tantôt la recommandation de quelques familles honorables, il est vrai, mais sans crédit, et tantôt une humble prière où se montrait l'espérance et l'estime méritées par un si jeune magistrat. À la fin, notre avocat général fut le maître absolu de cette procédure si compliquée. Il la possédait tout entière. Il voyait les embûches, les obstacles, les mensonges, les tours et les détours de ce déni légal de toute espèce de justice. Et quand M. le premier président du Parlement de Paris déclara que tel jour il entendrait les deux parties, le jeune rapporteur se trouva prêt. Nous avons dit qu'il s'agissait d'un grand procès. Autant Mademoiselle de Villetardieu était abandonnée à ses propres forces, autant ses plus proches parents, qui la voulaient dépouiller de toute sa fortune, étaient nombreux et protégés par des influences considérables. C'était l'usage alors que les partis vinssent attendre au palais de justice les magistrats dont leur destinée dépendait, et leur firent un grand salut lorsque ces messieurs montaient sur leur siège. Du côté de Mademoiselle de Villetardieu, il n'y avait personne, mais il y avait une vingtaine d'hommes et de femmes du côté de la partie adverse, un duc et pair, un abbé et commanditaire, une abbesse de l'ordre de Cîteaux, et plusieurs cordons bleus qui faisaient cortège à cette injuste cause et mêlaient leur respect aux sollicitations dont elle était entourée. Alors commencèrent les plaidoiries de part et d'autre. Mademoiselle de Villetardieu avait eu grand-peine à rencontrer, dans les détours du palais, un avocat très connu, mais très honnête homme, qui devait répondre à l'attaque intrépide à la parole toute puissante du plus illustre avocat de son temps, maître Nicolas Gerbier. Les plaidoiries n'employèrent pas moins de 8 jours, et ce fut des deux côtés un effort incroyable à qui soulèverait une plus grande poussière. Chacun de ces deux maîtres de la parole amoncelant nuage sur nuage. Plus les plaidoiries agrandissaient la cause hors de toute proportion, plus la cour semblait hésitante, et tout le palais était divisé. Mais les habiles et les retors les plus habitués aux grandes plaidoiries semblaient à chaque instant déserter la cause de Mademoiselle de Villetardieu, et les mieux disposés se plaignait déjà de n'avoir pas accepté les arrangements que messieurs ses oncles et ses cousins lui avaient proposés. « C'est fâcheux, » disaient les uns, « une si jeune personne abandonnée à ses propres forces. »« Oh, rassurez-vous, » disaient les autres, « on lui laissera toujours une dot suffisante pour entrer dans le couvent des dames de Saint-Augustin. » À la fin, les deux causes étant épuisées, le président donna la parole à monsieur le rapporteur, et la voix du magistrat était plus solennelle que de coutume, et ceux qui le connaissaient pour l'autorité de sa justice et la sûreté de son coup d'œil comprenaient qu'il avait grand-peine à prononcer cette inévitable condamnation. Ce fut alors que le jeune rapporteur, s'emparant de la cause entière et ne s'inquiétant guère des plaidoiries pour et contre, éclaira ce chaos d'une lumière inespérée. Il expliqua les ténèbres, il dévoila les perfidies, il invoqua les morts dans leurs tombeaux, il démontra les vrais méfaits, les vrais motifs de cette injuste spoliation. Que Mademoiselle de Villardieu ait rencontré dans sa propre maison si peu de sympathie, et que l'on voit au rang de ses adversaires les parents, même de sa mère, les sœurs de son père, un chevalier de Saint-Louis, tué à Denain, tous les vœux du maréchal de Villars. Voilà tout d'abord, messieurs, ce qui nous étonne. Mais la justice marche avec la vérité. Et il arriva, en moins d'une heure, par une suite de filiations, à faire la lumière sur ce bien seigneurial. Le malheur était assez grand d'avoir perdu le seigneur sans déposséder l'héritière. Enfin, il battait en broche toutes les filiations du droit féodal qu'il appelait sans peur le dernier de tous les droits. Pensez donc à l'étonnement, j'ai presque dit, à l'épouvante de cet auditoire émerveillé. Rarement, les vrais principes avaient apparu dans un éclat plus logique. Il semblait que l'auditoire acceptait toutes les éloquences de l'avocat général. Que vous dirais-je? Séance tenante, nos seigneurs du Parlement déboutaient et déboutèrent de leurs prétentions ces parents avides et sans pitié. Si bien que la Cour de Paris, brisant les motifs des premiers juges, Mademoiselle de Villetardieu fut maintenue en possession de ses domaines paternels. Gerbier ne sut que répondre et s'inclina devant cet arrêt en robe rouge. Pendant tout un mois, la ville et la cour du Parlement des provinces, et quiconque, ou de près ou de loin, tenait à l'administration de la justice, s'entretinrent de cet arrêt mémorable. On disait dans ce temps-là, rigueur de Toulouse, humanité de Rouen, justice de Paris. Cependant, la belle plaideuse n'est pas venue pour remercier monsieur de Frémiet. Il attendait bien un peu, mais il comprit que sa porte n'était pas engageante. Frappez, on ne vous ouvrira pas. Cette fois, il aurait ouvert. Elle ne me doit rien, se disait-il. Pourquoi s'adonnerait-elle à me remercier? Il n'y pensait plus quand il reçut une lettre qui ne contenait que ces deux lignes détachées de la bruyère. On bâtit l'amitié sur la reconnaissance, jamais l'amour. Voilà qui est profond, dit-il. En effet, l'amour n'aime pas la raison. Mais qui donc m'envoie cette énigme? Il pensa à Mademoiselle de Villetardieu. Mais il apprit alors qu'elle était dans sa belle terre perdue et retrouvée. Comme, en fin des comptes, monsieur de Frémiet avait 30 ans à peine, il prit la sage résolution de se donner un peu de bon temps. Pendant toute une saison, il n'avait songé qu'au procès de Mademoiselle de Villetardieu. Il y songeait la nuit, il y travaillait le jour. À peine si parfois il acceptait un dîner chez ses meilleurs amis, même chez son oncle Hardy, l'un des échevins de la ville de Paris. Que disons-nous? Les plus belles dames l'avaient provoqué de leur sourire. Il n'acceptait aucune de ces belles avances. Son procès, toujours son procès, rien que son procès. Pourtant, il avait rencontré plus d'une fois son adversaire, Maître Gerbier, très oublieux des choses du barreau, qui donnait le bras à une comédienne, sa maîtresse, si belle et plus complaisante que dans Justice. Pour lui, rien n'avait pu le distraire. Il avait résisté même aux mauvais exemples et à ses dangereuses conclusions. Mais, à présent qu'il était libre et sa cause étant gagnée, il s'enfuit avec deux ou trois conseillers d'épée de ses amis, dîner à la Cornemuse, un cabaret célèbre, où le bonhomme d'Ancourt allait souper tous les fois que sa pièce nouvelle était sifflée. Or, l'usage à la Cornemuse, c'était d'y passer incognito, pas de nom propre et pas de profession distincte. Ici, le magistrat, le capitaine, le poète et le comédien, chacun pour son argent était le maître, et nul n'avait le droit de s'enquérir du pourquoi et du comment. Messieurs les gens du roi célébrèrent le verre en main le succès de leurs confrères, et les plus timides portèrent la santé de Mademoiselle de Villardieu avec un glorieux vin de Bourgogne qui avait appartenu au père de Bossuet, le Bourguignon. Le repas se prolongea jusqu'à minuit. Donc il était temps de rentrer. Messieurs les conseillers s'en furent chacun de son côté, où l'appelait qui la passion, qui le devoir. Cependant, M. de Frémiet restait dans la rue, voyant des hommes et des femmes qui s'en allaient du même côté, se souvint fort à propos que le bal de l'opéra était ouvert. « Oh, je veux aller, » dit-il. Et le matin venu, j'aurai retrouvé mon sang-froid. À ces causes, le voilà dans cette éclatante cohue où s'agitaient tant d'aventures incroyables. On lui dit que la jeunesse et le vice et tous les bonheurs de l'intrigue s'étaient donné rendez-vous dans ce lieu de perdition. Il ne faut pas oublier que, pour la première fois depuis tant de siècles, dans ce bal de l'opéra nouvellement créé par un gentilhomme ruiné et qui s'y faisait 10 000 livres de rente, la plus parfaite égalité régnait parmi les invités. Le premier venu nettoyait la duchesse ou l'altesse royale. Un bourgeois était l'égal d'un fils de France. Et Monsieur le Régent lui-même, pour être mieux déguisé, recevait des coups de pied authentiques, officiels, de Monsieur le Cardinal Dubois. Notre avocat général avait longtemps résisté à l'entraînement universel. Mais le soir dont nous parlons, il ne savait rien d'impossible. Seulement, il oublia qu'il avait le droit de masque. Et comme il était perdu dans cette foule à visage découvert, pas un ne remarquait sa présence. Alors il fut abordé par une grande et fidèle frêle personne en domino noir et masqué. Elle tenait à la main un bel œillet rouge qu'elle offrit au jeune homme. Celui-ci, lui prenant le bras, ils se promenèrent longtemps dans le foyer de l'opéra. C'était un lieu tout flamboyant, plein de lumière et de déclarations d'amour. Là, quiconque était jeune et bien séante était sûr de rencontrer un galant à sa fantaisie. Un jeu muet de dû souvent à tant de choses. Il y a tant d'éloquence à se parler à voix basse. À 21 à 30 ans, jeunesse et passion se comprennent si facilement. Monsieur de Frémiet fut ébloui du charme et de l'esprit de son inconnue. Il la supplia vainement de lui montrer son beau visage. Il fallut se contenter de ses yeux pleins de feu, de ses dents blanches, de ses belles mains parfois dégantées. Grande était la tentation, mais le respect l'emportait sur tout le reste. Et quand il fallut se quitter, le jeune homme, à regret sans doute, remit la belle inconnue aux mains de la douairière qui l'attendait. Il revint très amoureux en toute hâte à son logis, et Dieu sait qu'il eut grand-peine à s'endormir. Tant de bruit, tant de clarté, de si beaux silences dans ce bruit d'enfer, et ce tumulte heureux de la danse et de la tendre chanson. Et désormais, il appartint à la maîtresse absolue de sa pensée. Sans cesse, il avait sous les yeux cet œillet rouge, sitôt fané, que lui avait offert cette belle main digne de Versailles. 4 longues semaines suffirent à peine à ses contentements. Elle et lui se retrouvaient dans le bal de l'opéra à la même heure. Ils se reconnaissaient au même signal. Toujours le même œillet rouge, toujours les mêmes tendresses avec des sentiments d'un amour éternel. Mais, disait-il, mais quand vous verrai-je? Espérez, répondit-elle, vous serez bientôt mes volontés. Et d'un œil plus vif et plus curieux. Avez-vous jamais aimé, mon beau damoiseau du palais? Jamais. À peine à 12 ans, ma petite cousine, pour manger à deux à la même tartine de confiture. Mais je dois vous avouer qu'il n'y a pas longtemps, j'ai perdu une belle occasion. Ah, mais contez-moi cela. Eh bien, j'ai sauvé la fortune d'une jeune fille, belle comme le jour, me dit mon secrétaire. Et le croiriez-vous? Eh bien, je n'ai pas voulu la voir. Mais je vous ferai canoniser. Vous avez eu tort. Vous l'auriez aimée. Oui, elle ne m'aurait pas aimé. La chambre des requêtes, c'est pas le chemin de l'amour. Et puis, la Bruyère l'a dit. Où il y a de la reconnaissance, il n'y a que de l'amitié. C'est vrai. Et pour le moyen d'aimer une plaideuse, fut-elle belle comme le jour, je suis un peu. Je sais un peu toute cette histoire. Votre demoiselle de la ville d'Ardieu n'est qu'une provinciale. Oh, madame, la beauté n'a pas de pays, ou plutôt, elle est toujours parisienne. Est-ce que vous êtes née à Paris? Oui, à 2 pas du palais. Je vous vois passer souvent. Et vous ne plaidez jamais? Si, j'ai une cause à plaider bien plus belle que celle de votre demoiselle de Villetardieu. Me la ferez-vous gagner? Oui, ou je perdrai mon latin de palais. Et on se donna rendez-vous pour le dernier bal masqué. Mais à ce dernier bal, la dame à l'œil rouge ne revint pas. Monsieur de Frémiet la chercha désespérée dans cette foule abandonnée à toutes les ivresses. Mon Dieu, la voilà perdue. Un autre l'aura trouvée. Ma chère inconnue, il la pleura sans cacher ses larmes. On lui eût apporté la plus belle cause à soutenir, il n'eût rien écouté. L'âme était partie et le corps ne vivait plus. Vainement, il la chercha aux alentours du palais. Il la chercha partout et ne la trouva nulle part. Son oncle Hardy et sa tante attendant paisiblement que le roi leur donnât la noblesse, avaient grande pitié des malheurs de ce jeune beau-neveu. Mon enfant, disait la tante, une bonne femme s'il en fut, où diable as-tu rencontré ces sottes amours? Comment donc? Tu te meurs pour une femme que tu n'as jamais vue et qui se dérobe au moment où tu vas lui offrir une main déjà très recherchée. On ne fuit pas de ces choses-là. À qui donc en as-tu, je te prie? Après tout, s'il te faut absolument quelque belle personne amoureuse de toi, nous avons vu par hasard Mademoiselle de Villardieu. Elle nous a raconté sa reconnaissance et ses rigueurs de son avocat général, mais elle est prête à te pardonner. Allez, fais ta demande et tu seras récompensé, même au-delà de tes mérites. Non, disait-il, je ne l'ai pas vue et je ne veux pas la voir. Toute mon ambition appartient à l'esprit qui l'a tant charmée. J'en mourrai, c'est vrai, mais je mourrai fidèle à tant de grâces. Il disait ces choses-là sérieusement. Il est vrai que Paris, en ce temps-là, lisait et relisait comme paroles d'évangile les poésies des poètes de l'amour. On adorait Gentil Bernard. On savait par cœur les élégies du cardinal de Bernis. Lui-même, le président de Montesquieu, ce génie et ce grand homme avaient fait le temple d'Euclide. Selon le mot du temps, on sacrifiait à l'amour et aux grâces. Aujourd'hui, nous rions de leurs larmes, mais c'étaient des larmes. C'est pourquoi, sans doute, il advint que la fièvre qui consumait M. le Frémier eut bientôt toutes les apparences d'un mal incurable. Il ne voulait rien entendre. Il était éperdu dans sa passion. Son oncle Hardy, très inquiet de son beau-neveu, employa une longue négociation pour lui faire accepter, dans son petit château du Fromet, un appartement au rez-de-chaussée, en plein nord, presque une cellule. Le soleil était absent, la verdure était épaisse, à peine on entendait dans le lointain, au murmure des peupliers d'Italie, le bruit matinal de la basse-cour. Point de livre, point de tableau, pas même un théorbe, comme on voit dans la conversation espagnole du mariage de Figaro. La rivière était proche, et son flot silencieux mordait amoureusement ses belles prairies. Le paysage, tout mélancolique, était en harmonie à ses rêves, et il finit par y trouver un vrai charme. Il errait sur ce visage en rêvant à ses aventures passées. S'il entendait par hasard une voix sonore, une agreste chanson, il tressaillait comme un enfant qu'on réveille en sursaut. Un jour de juin, un jour de soleil, comme il suivait la longue avenue où les saules, les pieds plongés dans ces eaux froides et la tête obéissante à tous les vents, lui prêtaient leur ombrage mobile, il aperçut au loin, assise sur un tertre, sous un orme centenaire, une jeune fille et sa suivante, qui lisaient des pages amoureuses. La suivante, penchée vers la dame, avait élevé la voix, un beau timbre d'or. Et la dame écoutait, les yeux pleins de larmes, les beaux vers que voici. Petite fleur qui croissait sur la rive, le vent jaloux passe pour vous cueillir. J'appelle en vain mon amoureux la rive. Loin de l'amour, me faudra-t-il vieillir? Lys qui penchait sur les roseaux vermeils, roseaux chanteurs, oiseaux et papillons, bois agités, diligentes aux abeilles, palmiers plaintifs, tapis dans les sillons, doux arcs-en-ciel égarés dans l'espace, nuages bleus par le vent emportés, Priez le ciel que mon amoureux passe. À lui mon cœur, mon âme et ma beauté. Oh, je ne suis pas coquette ni farouche. Vit-on jamais mon sourire moqueur? Et n'ai-je pas tout brillant sur ma bouche un doux baiser qu'emprisonne mon cœur? Notez bien que la jeune fille aux cheveux blonds avait paré son corsage d'un bel œillet rouge franchement arrosé des larmes du matin. Monsieur de Frémiet, à l'aspect de la jeune fille, tressaillit et devint tout pâle. Il ne la voyait pas, mais il lui semblait qu'il l'avait déjà vue et qu'il avait baisé plus d'une fois cette main charmante qu'elle agitait. Qui donc avait placé cette belle fleur à ce beau corsage? Tout l'aspect était d'une reine, si la parure était d'une rustique. En vain, il eût voulu se contenir, et l'amour fut plus fort que le respect. De son côté, l'inconnu, à l'aspect de ce jeune homme, étonnée et surprise, prit la fuite avec sa compagne, avec de petits cris pleins de terreur. « Madame, oh madame, où fuyez-vous ? » s'écriait M. de Frémiet. Il tendait ses deux mains à cette ombre, mais il criait, il pleurait dans le désert. Les deux femmes avaient disparu sous les saules. La dame, jetant son bouquet, la suivante, repliant ses vers, et notre amoureux se contenta de la fleur que portait la belle promeneuse à son coursage. « Je suis malheureux, disait-il, je ne l'ai pas vue. En voilà trois qui disparaissent, légères comme l'oiseau. C'en est fait, oh, j'y renonce. Et maintenant vienne la mort, sera la bienvenue, puisque toute femme fuit. « Oh, malheureux errant, enfant !» disait sa tante. « Mais quelle fièvre as-tu prise ?» Et la bonne tante ajouta. « Oh, ces amoureux en cimas ne savent pas le premier mot de l'amour !» L'oncle Hardy levait les mains au ciel, disant qu'il n'aurait jamais cru que le fils de sa sœur s'abandonnât à pareil désespoir. Monsieur de Frémiet interrogeait son oncle et sa tante. « Quelles sont vos voisines de campagne ?»« Oh, nous ne les connaissons pas. »« Oh, celle que j'ai entrevue aujourd'hui est bien jolie. »« Veux-tu que j'aille lui demander sa main ?»« Non, non, tu sais bien que je suis tout affolé de mon inconnu du bal de l'opéra. »« Mais tu deviendras fou. » Non, tant plus fou que je crois, Dieu me pardonne, que j'aime aussi Mademoiselle de Villevardieu, la tante riait. Et puis l'inconnu qui erre par ses campagnes. En vérité, monsieur mon neveu, vous êtes amoureux de 11 000 vierges. Ces hommes du palais, quand ils ont le ciel, la clé des champs, ils battent joliment la campagne. Que voulez-vous, je ne suis plus maître de ma raison, depuis que je ne suis plus maître de mon cœur. Enfin, ton cœur ne te dit donc rien? Il me parle hébreu. L'oncle prit une prise de tabac d'Espagne et secoua sa jabotière. Il faudra pourtant découvrir la dame à l'œil rouge. Vous l'oubliez, dit la tante. Le lendemain, nouveau spectacle. C'était le plus rustique et le plus charmant tableau. Deux jeunes et belles châtelaines étaient assises sous un parasol dans la prairie devant un panier de cerises comme des paysannes. Et quelles cerises! Et encore un rustre leur offrait à chacune une branche de cerisier tout en fruits. La plus jeune était la plus belle. La voir, oh, c'était l'aimer. Monsieur le Frémier reconnut la jeune fille de la veille qui écoutait si bien la chanson amoureuse. Quand il l'aperçut, elle portait une cerise à ses lèvres qui étaient aussi des cerises. Il eût voulu les dévorer. « Ah ! » s'écria-t-il, « si mademoiselle de Villetardieu, ou plutôt si la dame à l'œil rouge était belle comme cela !» Quelques jours après, M. le Frémier ne fut pas peu surpris de voir venir au château la belle dame qui avait cueilli des marguerites et mangé des cerises dans les prairies voisines. Elle venait, sans façon, dîner avec le châtelain de Fromet, elle, la châtelaine d'Igneville. On dîna gaiement. M. de Frémière avoua que les provinciales avaient tout l'esprit et toute la grâce des parisiennes. « Quel malheur !» murmurait-il. « Que je n'ai pas rencontré cette belle créature avant de me passionner pour la dame à l'œil rouge et avant de m'inquiéter de mademoiselle de la Villehardieu. » Le lendemain matin, le messager qui apportait les lettres de Paris deux fois par semaine remit deux plis cachetés à M. le Frémier. Ce ne fut pas sans surprise et sans émotion qu'il ouvrit le premier. C'était une petite écriture de vraies pattes de chat et il lut ces lignes passe-griffonnées. « Monsieur mon amoureux, vous savez que je m'ennuie fort de ne pas vous voir. J'attends avec impatience le prochain bal de l'opéra, mais ce n'est pas demain. Pourquoi êtes-vous charmant quand vous avez dépouillé la robe du magistrat? Je vous croyais voué au sévère, mais vous avez d'adorables quarts d'heure. On me dit que vous êtes loin de Paris, dans un paradis hanté par de belles provinciales. N'oubliez pas, n'allez pas m'oublier, même si elles ont des œillets rouges. La dame a l'œillet rouge. Et voici la seconde lettre. Que je suis désolé, monsieur, d'avoir gagné mon procès grâce à vous, car enfin, si je l'avais perdu, vous ne m'eussiez pas fermé votre porte sans me voir, comme vous avez fait. Il aurait bien fallu me consoler, et je vous jure sur mon âme et sur Dieu qu'il eût été bien plus doux d'être consolé par vous que de tenir de vous ma fortune. Car voulez-vous que je passe de ma fortune? Que voulez-vous que je la fasse d'elle sans vous? Adieu, puisque je ne puis dire au revoir. Soyez heureux, même dans mon malheur. Adèle de la Villetardieu. À chacune des deux lettres, M. le Frémier sentit des larmes couler dans ses yeux. « Suis-je assez malheureux ? » s'écria-t-il. « Il semble que je ne lui suis né que pour être maudit par l'amour. » Il répondit aux deux billets, « Mais à quoi bon, puisqu'il ne savait où les envoyer ?» Le soir venu, comme M. le Frémier était dans le jardin, prêtant une oreille indifférente aux mille bruits de la campagne, sans avoir reconnu l'arrivée d'un carrosse, il sentit deux petites mains qui se posaient sur ses yeux pleins de larmes. Une belle voix lui dit « Devine !»« Oh, moins que tu ne sois mademoiselle de Villetardieu !» ou la belle mangeuse de cerises de ce matin, ou la dame à l'œil rouge du bal masqué, je serai le plus malheureux de tous les hommes, et aveugle comme l'amour, ou comme un maître des requêtes, dit la belle châtelaine Ligneville, en lui tendant la main. Et avec le plus charmant sourire, nous avons été trois, je ne suis plus qu'une seule, mais je vous aime pour trois. » Monsieur le Frémier baisa amoureusement la main de la charmeuse. « Et moi, je vous aime comme quatre. À la fin de l'automne, mademoiselle de Villevardieu épousait M. de Frémiet. « Enfin, disait la dame à l'œillet rouge, c'est le dénouement de ma comédie, et Dieu me pardonnera. » Il y eut de grands étonnements, mêlés à de grandes réjouissances à propos de ce mariage. Monsieur le premier président fut le témoin du jeune homme. L'oncle Hardy, qui jouait trop volontiers sur son nom propre, conduisit hardiment mademoiselle de Villetardieu à l'hôtel. C'est ce jour-là qu'elle était belle comme le jour, car elle rayonnait dans l'amour et dans la joie. « Est-il heureux, disaient messieurs les enquêtes, d'avoir une si belle femme ? Et que Dieu nous en accorde une pareille, disaient messieurs des requêtes. Ainsi soit-il. » Jules Janin.